Ok, oui, 10h02, excellent. Lundi 22 septembre, j'espère que votre semaine s'entame du bon pied. En tout cas, dans la circulation, ça en a été une belle ce matin. Tu sais, des fois, à force de penser qu'il va arriver quelque chose de terrible, ben on se prépare mentalement, puis on est prêt. Puis certains doivent même être restés à la maison, puis ont opté pour le télétravail. Il y en a qui doivent être partis de chez eux pas mal de bonne heure en raison de cette manifestation de camionneurs sur le pont Pierre-Laporte. On bloquait certaines voies, ce qui normalement aurait dû créer une catastrophe dans le secteur des ponts. Puis finalement, ça a été ouvert pratiquement tout le matin, fait que tant mieux. Puis en même temps, pour les camionneurs, il y en a qui disent, ben, ça veut pas dire que c'est un flop, tu sais, vous avez parlé de nous autres dans les médias, puis c'est un point qui peut se valoir, en effet. C'est vrai qu'on en a parlé, puis qu'on a parlé de la cause. Cause d'ailleurs que plusieurs appuient sans être en accord avec la façon de faire là, pour venir en faire parler, c'est-à-dire paralyser la circulation. C'était ce qu'on voulait faire. C'est pas vraiment ce qui est arrivé dans les faits, mais je trouve important de le réitérer, puis on l'a fait souvent, là. La cause de vouloir venir sécuriser le milieu du transport routier, le milieu du camionnage, devrais-je dire, ben on est tous derrière ça, puis on veut tout pas qu'il arrive quelque chose à un de nos proches ou à n'importe qui parce qu'un camionneur a obtenu son permis de façon illégale puis de façon tout croche. Il y a personne qui est pour ça. Le fameux phénomène de camionnage Inc, là, ou appelez ça comme vous voulez, de camionneurs illégaux qui risquent de créer des accidents. Puis il n'y a personne qui est pour ça. On veut tout que nos routes soient plus sécuritaires. Et le point, c'est à ne pas confondre, c'est on veut pas nécessairement que les moyens de pression soient de faire chier monsieur, madame, tout le monde qui essaye juste de se rendre à la job un lundi matin. Fait que les fameux lundis infernaux, ben oui, on peut être contre ça tout en étant d'accord avec les revendications de ces quelques camionneurs-là qui ont pris d'assaut les routes ce matin. C'était, y avait quelques villes au Québec, là. Puis à Québec, comme je vous dis, ça a pas créé grand chaos. Fait que tant mieux pour un peu tout le monde à ce niveau-là. Présentement à Québec, c'est un 15 degrés. On attend un maximum de 17 aujourd'hui avec de la pluie qui devrait commencer dans les prochaines heures. Demain, c'est 23 avec 30% de possibilité d'averse. Mercredi, alternance soleil-nuage avec 21. Fait que dans les prochains jours, il y a quand même quelques journées où ça va être pluvieux, où ça va être nuageux, mais après ça, on devrait avoir quand même un beau week-end avec des températures aux alentours des 21, 22, soleil, nuages. Fait qu'on peut bien passer à travers une semaine un petit peu plus nuageuse et pluvieuse. Si on nous récompense avec un beau week-end, ben on va être bien content. 418-971-1021, c'est le numéro pour me rejoindre en texto. S'il y a quoi que ce soit quelque chose qui se passe sur les routes ou des réactions à l'émission, des questions pour nos invités aujourd'hui, ben c'est toujours un plaisir de vous lire par texto. Je parle de mes invités aujourd'hui. Luc Paquette, directeur de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. On va jaser ensemble des impacts des compressions budgétaires imposées au Centre de services scolaires du Québec. C'est dans le Journal de Québec ce matin, qu'on peut lire Daphné Dionvien, qui a fait le tour puis qui nous met un peu sur la table concrètement les compressions budgétaires en éducation. Qu'est-ce que ça a comme impact? Fait que j'ai dressé une petite liste de ce qu'on retrouve dans cet article-là et je veux qu'on discute avec Luc, savoir, OK, est-ce que lui le vit comme directeur de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne? Est-ce qu'il y a eu des façons de faire pour les établissements de venir régler certains problèmes qu'on aurait pu avoir tout en allant quand même de l'avant avec les compressions budgétaires qu'on n'avait pas le choix de faire. Puis aussi, jasé avec Luc de l'interdiction des téléphones cellulaires, parce que là, ça fait une couple de semaines qu'on est rentré à l'école du côté de toutes les écoles secondaires du Québec. Comment ça se passe? C'est dans le journal, encore une fois, la semaine passée, qu'on lisait que les jeunes, ben, ils trouvent des façons pour utiliser leur téléphone. Je pense que c'était à prévoir. Fait qu'il y a hâte d'entendre Luc sur cette réalité-là des téléphones cellulaires à l'école. Est-ce que l'interdiction fonctionne vraiment? Puis sinon, ben, on va jaser de sport aussi avec Alex Laramé, journaliste au 99.5 Montréal. Vous pouvez l'entendre au sport dans Gravel dans le retour également. Premier match préparatoire du Canadien de Montréal. Ce soir, les Pingouins de Pittsburgh qui seront en ville. Faut dire que les Pingouins sortent pas le gros stock là, pour ce match-là. Les joueurs les plus connus de l'alignement, Robbie Fabry, Boko Imama parce que c'est un Québécois, on le connaît, Sam Poulin, Anthony Manta qui va être là, sinon c'est pas du gros stock, Danton Heinen. Il y a Raphaël Harvey-Pinard qui sera de l'alignement des Pingouins ce soir au Centre Bell, ça c'est quand même cool. Sinon en défense, des gars comme Matt Dumba, Ryan Graves, l'espoir Owen Pickering, Connor Clifton, l'ancien des Bruins de Boston. Mais c'est ça, c'est pas un gros alignement qui va être envoyé sur la glace du Centre Bell ce soir pour les Pingouins de Pittsburgh. Pour l'instant, on n'a pas encore l'alignement du Canadien. Faut pas s'attendre à grand chose, évidemment, là, parce que c'est un match, c'est un premier match préparatoire. Il va peut-être y avoir quelques gars de l'alignement régulier, là, un peu comme ce que je viens de vous nommer chez les Pingouins. Mais c'est sûr que je pense pas voir Suzuki, Caulfield à soir. Peut-être, mais je serais assez surpris. Là, peut-être plus des gars qui ont des choses à prouver, malgré le fait que ce soit des vétérans comme Kirby Duck et Patrick Laine, entre autres choses. Est-ce qu'on aura la chance de voir un Ivan Demidov? Espérons-le. Mais il faut se rappeler que c'est un début de camp d'entraînement. C'est un premier match préparatoire. Et ce sera pas un alignement étoile d'un côté comme de l'autre. On en jase tantôt avec Alex Laramé. Pour l'instant, il y a pas mal de nouvelles. Fait qu'on va faire le tour ensemble. La Sûreté du Québec, qui était à la recherche là, d'un homme de 36 ans qu'on disait potentiellement armé dans le secteur de Neuville. Et là, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus. On parle d'un gars qui est connu du milieu policier. Mandat d'arrêt qui a été émis pour liberté illégale. On va continuer de suivre ça. Ce qu'on avait dans les dernières heures, là, on demandait à la population de ne pas s'approcher de ce gars-là, de contacter le 911 si on le trouvait. Et là, on l'a localisé dans un chalet abandonné. Et on est en négociation avec lui du côté de la Sûreté du Québec. Un certain Jonathan Lachance-Derry. Il y a eu poursuite policière hier dans un véhicule. Puis depuis ce temps-là, on le cherchait dans les dernières heures. On l'aurait trouvé dans un chalet inhabité. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Sinon, arrestation d'un suspect de 18 ans pour avoir lancé des feux d'artifice dans une game de soccer. C'est vers 20h hier que les policiers du SPVQ ont été à place rendre sur la rue Baillargé dans le secteur de Sainte-Foy. Un jeune qui aurait lancé des feux d'artifice, dont un en direction d'une foule qui assistait à une game de soccer. Une jeune fille aurait été atteinte par le projectile à une jambe. Un véhicule aurait été endommagé aussi. Rapidement, il y a des véhicules de patrouille du SPVQ qui se sont déplacés sur les lieux. On a localisé le suspect qui se trouvait dans un stationnement parce qu'il avait été appréhendé par des spectateurs. Il a été arrêté pour agression armée et méfait avant d'être libéré par sommation. La victime, une jeune fille de 12 ans qui se trouvait sur le côté du terrain avec des membres de sa famille, n'a pas été blessée. Fait qu'on a évité le pire, mais le jeune de 18 ans, qui devra vraisemblablement vivre avec des conséquences. Ce matin, on a reçu Sam Hamad, chef de Leadership Québec. Sam Hamad qui veut devenir maire de la ville de Québec. Et on est revenu sur les propos de Napoléon Hou, candidat de Sam Hamad, qui a mentionné dans les dernières années à quelques reprises que l'itinérance à Québec, il y avait des enjeux par rapport à ça. Parce qu'il était trop bien à Québec. C'est un peu le message qui est envoyé dans les derniers jours. On cite des propos de 2023. C'est Radcan qui était retombé là-dessus. Napoléon Hou qui jasait dans des consultations publiques. Puis ce qu'il a dit, c'est qu'à Saint-Roch, les organismes communautaires pleurent pour de l'argent et ne veulent pas atteindre l'itinérance zéro pour garder leur job. Fait qu'en gros, c'était bon pour les organismes d'avoir de l'itinérance parce que ça leur permettait de garder leurs employés puis de garder les jobs. C'est sûr que tu ressors ça aujourd'hui, ça paraît pas super bien pour un gars qui veut devenir un élu municipal à Québec. Et Bruno Marchand a réagi dans les dernières heures par rapport à tout ça. Il dit qu'il veut être très clair. Ce genre de propos-là nous divise, déshumanise les personnes itinérantes et nous éloigne de la solution. Écrit qu'à Saint-Roch, les organismes communautaires accomplissent un travail immense, souvent dans l'ombre. Ils nous aident à bâtir des ponts, à garder l'espoir d'une ville plus égalitaire où on ne laisse personne derrière. Puis Bruno Marchand, qui prend le temps de les remercier, mentionne que les organismes ont son soutien sans condition et son admiration. Dit que c'est avec eux qu'on va relever les défis sociaux dans Saint-Roch. Il entend des résidents et commerçants de Saint-Roch qui leur partagent leurs craintes puis leurs inquiétudes. Puis ce sont des craintes, des inquiétudes qui sont légitimes. Bruno Marchand dit qu'on fait du progrès depuis 4 ans, mais il faut continuer le travail, mais qu'on ne fera pas campagne sur la peur des plus vulnérables de notre société. On fera campagne sur nos solutions pour les aider et nos idées pour bâtir une ville plus humaine. D'ailleurs, je vous disais qu'on avait Samamad avec nous ce matin. On en a profité pour le faire réagir sur les propos de Claude Villeneuve de la semaine passée. Claude Villeneuve qui est comme sorti en parlant d'intimidation. Claude Villeneuve qui aurait dit hey, ben, fais attention à ce que tu dis parce que t'as des petites filles qui t'attendent à la maison, tu sais, puis ça serait proche qu'il arrive de quoi à ta famille. T'sais, des genres de propos de films de mafia, là. Alors que là, ben. Ce qu'on comprend, c'est c'était plus un genre d'appel au calme de Sam Ahmad que dit à Claude Villeneuve hey, on veut pas que nos familles soient impliquées là-dedans. Fait que là, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et comme je vous dis, on a fait réagir Sam Ahmad.
Parce qu'il n'est pas revenu sur ses paroles, puis en même temps, il se cache des médias. Vous en pensez quoi?
Ah, ben, c'est ridicule. C'est ridicule d'arriver là. Très ridicule.
Il devrait-tu se retirer de la candidature à l'Amérique, ces paroles-là?
Regarde, je m'occupe plus de lui, là. Ça donne rien, là. Okay. Ça donne rien.
Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que lui interprète ça des menaces envers ses deux filles?
Il faut lui demander la question avec un psychologue, je ne sais pas, là.
Donc, sa maman, clairement, qui ne veut pas prendre Claude Villeneuve au sérieux, dit qu'il veut plus s'occuper de lui. On a aussi questionné sa maman, parce que là, c'est comme pas clair. Là. Il vient-tu pour un mandat, pour deux mandats? Il vient... On comprend comme pas ce qu'il veut faire, puis sa réponse est pas plus claire.
Et si jamais il arrive qu'il y a un grand dossier qui n'est pas réglé, il faut que je reste là, je vais essayer de réfléchir là-dessus. Mais en principe, c'est un mandat. Et tu sais, il faut être réaliste, là. Si j'arrive aux troisième année, quatrième année, puis il en reste encore, puis il faut que je le fasse moi-même, là, j'ai une bonne équipe. Vous avez parlé des sports, là. Moi, je pense qu'on a une équipe rouge et or.
Fait que c'est... En principe, un mandat, mais s'il y a des dossiers qui demandent à ce que Sam Ahmad reste en poste, ben, il pourrait décider de rester. Fait que quand je dis que sa réponse n'est pas plus claire, c'est un peu ça, là, mais c'est ce qui est à retenir. En principe, c'est un mandat, mais. Fait que sais-tu, OK, ben, si on n'est pas assez avancé dans le projet de SRB, ben, je vais devoir rester pour m'assurer qu'on se rende au bout. Est-ce que c'est par rapport à l'itinérance, si on n'est pas rendu où on veut en termes d'itinérance, puis le quartier Saint-Roch et tout ça, ben, il va rester plus longtemps? Ce sont des bonnes questions, puis on le saura vraisemblablement juste dans 3-4 ans. Puis ça, c'est si on s'entend, là, Sam Ahmad est élu pour une première fois comme maire de Québec le 2 novembre prochain. On devait, puis je le disais dans les nouvelles d'entrée de jeu, on devait avoir une circulation difficile dans la région ce matin. Ça va encore super bien. Sûr que c'était de 5h à 9h, là, la manifestation de camionneurs sur le pont Pierre-Laporte. Et présentement, ben il n'y a rien eu, puis il n'y a rien en ce moment, puis il n'y aura pas de problème vraisemblablement lié à ça plus tard en journée non plus, parce que la manif était vraiment ce matin. Mais il n'y a pas eu d'impact, là. C'était un des plus beaux lundis des dernières semaines sur la route. Je pense que les gens ont tellement eu peur puis s'inquiétaient tellement que ce soit le bordel, ces ponts, qu'il y en a qui sont partis d'avance. Il y en a probablement beaucoup qui s'étaient arrangés. Je ne sais pas, faire dodo à Québec. Est-ce qu'il y en a qui sont partis à 4-5 heures du matin de chez eux? Je peux vous dire que oui, parce qu'on a reçu des textos de gens qui nous ont dit « Ouais, ben avoir su que j'avais pas à me lever à cette heure-là, ben je me serais pas levé à cette heure-là, j'aurais attendu un petit peu. » Fait que ça a bien été sur les routes. On fera un tour des autres nouvelles un petit peu plus tard dans le show, parce que dans les prochaines secondes, on va aller rejoindre notre premier invité, Luc Paquette, qui est directeur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. On va jaser des impacts des compressions budgétaires imposées au Centre de services scolaires du Québec. Radio. 10h17 minutes dans le point de Max à Boulevard 102. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021 par texto. Je sais qu'il y a des professeurs, notamment, qui sont souvent à l'écoute à Boulevard 101. Gênez-vous pas si vous avez des réactions, si vous êtes à l'écoute présentement et que vous avez envie de parler des effets concrets, des impacts, des compressions budgétaires qui ont été imposées au Centre de services scolaires du Québec dans les derniers mois. Il faut dire qu'à la base, on avait imposé un genre de demi-milliard qu'on a fini par dire « Ouais, ben finalement, vous allez toucher à peu près ce montant-là, mais de façon différente, parce que là, on veut vraiment s'assurer que l'argent qu'on envoie, ben soit de l'argent qui profite directement aux jeunes. » Bon, ça, j'ai trouvé ça un peu insultant comme façon de le dire pour des directions d'école, notamment que j'imagine, à la base, ben ils espèrent que l'argent qui touche va profiter directement aux jeunes. Mais bon, c'est la phrase de communication qui avait été utilisée par Bernard Drainville. Bref, on va en parler de ces impacts des compressions budgétaires avec Luc Paquette. Il est directeur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. Ça va, Luc?
Ça va très bien, Max, aussi.
Yes, merci. Je te parle ce matin parce que c'est dans le Journal de Québec que Daphné Dion vient. Nous parle de différents éléments, de différents impacts, des compressions budgétaires. Puis je voulais qu'on fasse le tour avec quelqu'un d'une école de la région qui a eu à composer avec ces compressions budgétaires-là. Dans la petite liste qu'on peut dresser là, avec l'article du journal ce matin, on parle notamment de groupes maximisés. Fait que des classes, puis on avait déjà parlé dans les dernières années de classes qui débordent un peu. Bien là, semble-t-il que c'est encore plus vrai avec les compressions. Est-ce que c'est une réalité chez vous?
Ouais, ben oui, puis juste un peu pour faire un peu l'historique de tout ça, Max, pour que les auditeurs comprennent bien, là. Quand on a eu des coupures qui ont été annoncées vers la fin juin, vers la mi-juin, nous, on devait répondre à ce qui était demandé. Alors, il y a eu des coupures en termes de personnel. Puis, on a vraiment, je pense, la majorité des directions, là, on a coupé au maximum dans nos budgets. On essayait de pas toucher au service à l'élève ou le moins possible, ce qui devenait impossible, là, fallait le faire, mais on voulait diminuer l'impact le plus. Fait qu'on regardait partout ce qu'on était capable de resserrer, puis je dirais pas de couper dans le gras, là, il n'y en avait pas. On coupait dans le muscle. Ou ce qu'on était capable de le faire, on le faisait. On a vu une deuxième communication du ministère ensuite qui disait « Vous pouvez aller couper jusqu'à 20 % dans certaines mesures, qu'on appelle des mesures protégées dans notre jargon. C'est des choses qui, normalement, là, on a des redditions de comptes et on ne peut pas aller jouer là-dedans quand on veut bouger nos budgets. Exemple, le parascolaire, ce qu'on a vu un peu dans le journal. Donc, on a pu aller jouer là-dedans pour, encore une fois, diminuer les coupures de personnel qui sont en service direct pour nos élèves. Et l'autre levier qu'on a, c'est lorsqu'on fait l'organisation scolaire, là, le gros casse-tête de la rentrée dans les écoles secondaires, c'est qu'il y a un maximum d'élèves, on est financé par élèves par classe. Donc, exemple, en secondaire 1, à chaque fois que j'ai 28 élèves dans un groupe, je reçois le financement. Mais si je décide de faire des groupes à 22 ou à 21 parce que, je sais pas, un groupe plus difficile ou pour parce qu'ils doivent faire une activité, un profil ou une concentration, bien, moi, je vais être financé au 28e. Fait que s'il faut que j'ouvre un groupe de plus parce que mes groupes sont pas pleins, bien ça, c'est l'école qui absorbe ce groupe-là. Okay. Puis ça coûte environ 130 000 $ pour un groupe supplémentaire. Fait que sachant que on se disait, nous, crime, c'est sûr que là, mes budgets vont être très, très, très serrés, bien, je vais maximiser mon organisation scolaire. Fait que c'est pas nécessairement de faire dépasser plus que bon, et là, j'ai des groupes à 32 périodes, à 32 élèves. Le maximum, c'est 32, mettons, en secondaire 4 en or. Est-ce que c'est beaucoup, j'ouvre-tu d'abord un groupe à deux périodes de plus? Ben là, peut-être que je l'ai peut-être pas. Je le fais pas. Je garde mon 32 élèves, je vais aller chercher mon maximum pour voir à quoi va ressembler mon budget, parce que nos budgets, on est là-dedans. Là. Fait que on appelle ça la facture enseignante, donc le nombre d'élèves par groupe. C'est vraiment quelque chose qui a un impact majeur sur le budget des écoles.
Fait qu'on veut le maximiser, puis tu sais, je capotais un peu en lisant ça dans le journal. Les directions d'école se demandent comment on pourra accueillir les nouveaux élèves qui arriveront au cours de l'année scolaire. C'est grave à ce point-là qu'on n'aura même pas, dans certains établissements, la marge de manœuvre pour accueillir de nouveaux élèves s'il y en a, ouais, qui arrivent, parce que ça arrive des déménagements.
Exact. C'est un peu la tempête parfaite, parce qu'il y a deux choses là-dedans. Un, les écoles sont à pleine capacité. Fait que moi, quand j'appelle mes collègues, et j'ai un élève de troisième secondaire, elle veut aller chez vous, je pense que ça serait une bonne chose. Ils me disent, Luc, je suis plein. Tu sais, mais bon, j'ai plus de place, mettons, c'est 32 élèves maximum dans ce niveau-là. Je suis à 32 puis peut-être 33. Je peux pas en prendre un de plus. Fait qu'on est dans ces... Fait qu'on est tout un peu là-dedans. Puis, si on dit, j'ouvre-tu un groupe de plus si j'ai des élèves qui arrivent? Ben là, on dit, ouais, mais j'ai-tu les moyens de m'ouvrir ce groupe de plus-là? Parce que c'est moi qui vais le financer avec mon argent d'école à ce moment-là, puis c'est des ressources que j'avais peut-être moins. Alors, ça se peut qu'il y ait des décisions de certaines directions qu'on a un peu concentrées. Maintenant, est-ce qu'il y a un élève qui va partir, un qui va rentrer? On se met plus à risque. Moi, je pense pas, là, tu sais, que tous les groupes soient au bouchon, là. C'est un peu intense, là. Il y a toujours un peu d'espace quand même. Mais c'est sûr qu'on est moins agile qu'on l'a déjà été parce que on veut s'assurer que les budgets se tiennent. Parce qu'une autre chose qui a changé aussi dans le système, c'est qu'avant ça, s'il restait de l'argent, mettons, dans mon école, que je n'étais pas en mesure de tout dépenser, nous, les sous demeuraient dans mon budget pour l'année suivante. Okay. Maintenant, si on a des surplus, ils sont tous repris, mais on garde nos déficits. Fait qu'on veut s'assurer quand même d'avoir une rigueur budgétaire parce que le coût à ça est important. Donc, c'est vraiment là-dedans. Il y a moins d'agilité. C'est pour être beaucoup plus en prévention puis pas mettre l'école dans des mauvaises situations économiques parce qu'on sait que les budgets sont très limités.
Parlant de budget limité, on nous parle aussi d'une baisse de 20% là, pour certains centres de services scolaires de l'enveloppe budgétaire qu'on a pour les sorties culturelles. Ça, est-ce que c'est quelque chose dans laquelle vous n'avez pas eu le choix de revoir vos chiffres aussi, les fameuses sorties culturelles?
Bien, c'est un peu le genre de... Oui, puis tu sais, je vais prendre sorties culturelles, puis je vais faire un peu le lien aussi avec le parascolaire. J'avais la possibilité dans mon école, exemple, de dire... Je peux aller enlever 75 000 $ en parascolaire sur quand même un gros budget qu'on a. Fait que, tu sais, on est capable de garder ce qu'on faisait, de le garder en bon état. On va juste peut-être moins mettre de crémage sur le gâteau, bouger, enlever peut-être certaines activités, mais ça me permet de sauver une TES de plus qui va travailler avec mes élèves vulnérables. C'est un peu tout le temps le calcul. Fait que pour les activités mettons culturel, là, une école comme la mienne à 1250 élèves, c'est autour de 26 000, 27 000 $ qu'on peut avoir. Fait qu'effectivement, c'est un endroit qu'on a pu aller récupérer un peu de sous pour venir s'assurer d'offrir les ressources pour les élèves. Puis là, on va le voir avec, bon, ben au lieu d'avoir 26 000, je vais avoir 21 000. Bon, ben avec le 21 000, quelle sortie on est en mesure d'organiser? Mais autant, c'est sûr que c'est pas parfait parce que ça vient diminuer le nombre de sorties qu'on peut faire. C'est des organismes aussi qui reçoivent le moins de nos élèves. D'un autre côté, c'est un petit peu de la flexibilité qu'on avait demandé parce que on se rappelle dans le contexte des coupures, c'était que du personnel pratiquement là, quand on était à de sauver des gens pour qu'ils aident nos élèves. Ben, on en faisait une priorité.
C'est un peu un mal pour un bien, même si évidemment on aurait aimé ne pas avoir à faire ces choix-là. Tu parles d'embauches qui peuvent se faire avec de cet argent-là pour revenir en soutien aux professeurs, mais ce qui est abordé aussi dans l'article, c'est on parle du budget pour de la formation, de l'accompagnement pour les profs, le perfectionnement aussi, bien ça, ce qu'on nous dit, c'est que c'est beaucoup amputé. Une baisse qui va atteindre 50% dans certains centres de services scolaires. Ça, c'est exactement le genre de service qui, entre guillemets, pas direct aux élèves dans lequel on a vraiment dû couper.
Oui, puis lui, il n'est pas loin d'être directement aux élèves, là, dans le sens qu'un enseignant qu'on vient développer, c'est un enseignant qui a plus d'impact avec ses élèves. Là. Donc, c'est vraiment critique. Puis, dans un temps aussi où on a plusieurs enseignants qui n'ont pas l'ensemble des qualifications, donc ça prend de la place. Puis là, je pense que c'est vraiment des modèles là, qui sont différents parce que dans les budgets, les enseignants reçoivent un montant pour de la formation continue. Fait qu'il y a quand même déjà un montant que chacun a qui peut utiliser pour sa formation. Mais je pense que c'est le volet mentorat qui a peut-être été bougé là dans certains centres de services ou écoles. Nous, au secondaire, parfois, on est un peu moins touchés parce que c'est plus nous qui reçoit les... Tu sais, c'est plus nous qu'il y a des enseignants là, qui n'ont pas de brevet. Donc, notre modèle, nous, c'est qu'on a gardé un peu, mais ça l'a fait en sorte qu'aux primaires en ont un peu moins. Fait qu'effectivement, ça fragilise le réseau à long terme, parce que tu sais, des fois, un enseignant qui est moins efficace dans sa classe, ben il va demander plus de ressources pour aller compenser. Mettons un éducateur spécialisé qui va l'aider. Mais là, si on a moins d'éducateurs, là, c'est pas une belle roue là, qui peut commencer à tourner. Là.
Dans ce qui n'a pas nécessairement été abordé dans le texte, dans le journal ce matin, en passant, je vous invite à le lire, là, c'est Daphné Dion-Vien qui signe « Classe bondée, sortie culturelle amputée et moins de soutien pour les profs, les effets du régime minceur en éducation s'additionnent. » Y en a-tu des éléments qui n'ont pas nécessairement été abordés là-dedans que toi, tu vois pas mal chaque jour en disant « Ouais, ben les compressions, l'impact, là, je l'ai dans la face. »
J'ai pas de marge de manœuvre. C'est vraiment ça. Tu sais, les différents leviers qu'on avait de se donner un petit peu d'air dans notre budget pour dire, regarde là, si j'ai telle situation, je suis capable d'aller le reprendre. Je vois le projet de plus. Tu sais, là, on est vraiment dans les, on est dans la base. Avoir le nombre de personnes que j'ai besoin pour que ça tienne. Il y a des beaux projets qui se faisaient autour. Il y a des choses super intéressantes pour le bien-être des élèves, leur motivation. Que ça, on n'a pas le choix là, présentement de prendre un pas de recul là-dessus pour s'assurer que la base soit solide puis qu'on garde l'argent là-dedans. Moi, je pense que pour cette année, avec le plan d'investissement, on s'en tient, c'est correct, c'est pas parfait, c'est correct, mais c'est beaucoup les réflexions pour les prochaines années. Là. Est-ce qu'il va y avoir un réinvestissement comme on a eu encore ou les coupures qu'on avait eu à faire vont tu sais, on va avoir encore à gérer ça à un autre niveau l'année prochaine, c'est beaucoup plus ça. Mais je pense que pour cette année, on a réussi à faire avec une situation pas parfaite parce qu'on est tous là pour trouver les meilleures solutions pour nos jeunes, mais beaucoup moins d'agilité dans les budgets. Là. Ça, c'est certain. On revient vraiment à l'essentiel de l'essentiel.
Est-ce que les élèves le voient, ça? Est-ce que les élèves en jasent des services qui sont peut-être un peu moins présents, malheureusement, ou on réussit quand même à s'arranger pour que, pour les élèves, concrètement, ça se voit le moins possible?
Bien, je vais parler pour mon école. Il n'y a pas... Un élève ne peut rien voir.
OK.
Dans le sens que, tu sais, avec le réinvestissement qu'on a eu, j'ai été rechercher les gens que j'avais besoin pour aider mes élèves qui sont plus fragiles. On a une super offre de parascolaire. Fait que, tu sais, eux voient pas là, les petits endroits qu'on a fait. Fait qu'on a réussi vraiment à... C'est un peu ça. On a enlevé du crémage sur le gâteau, mais il reste encore un gâteau. Donc, eux le voient moins. Mes enseignants vont dire que habituellement j'étais quelqu'un qui disait oui à tous les projets puis qui disait oui à toutes les initiatives parce que c'est de même qu'on crée des gens motivés, qui crée des élèves motivés. Là, j'ai pas le choix vraiment à certains moments de dire hey, donne-moi un petit peu de temps. Là, j'ai vraiment besoin qu'on sait que c'est une planification budgétaire qui est beaucoup, 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 beaucoup plus prudente. Puis les gens pourraient dire que c'est une bonne chose que le réseau, il n'y avait pas de dépenses à outrance, on n'est pas là-dedans. Là. On est vraiment des projets intéressants qu'on a besoin de faire pour les élèves, de dire, bon, on va attendre un peu puis on va voir. Fait que c'est davantage comme ça, je pense, qu'on se gouverne là, pour la grande majorité.
Luc, je suis curieux de t'entendre en terminant, puis on change de sujet, mais je voulais absolument t'en jaser la prochaine fois qu'on allait se parler, puis ça tombe à être aujourd'hui. Depuis le début de l'année scolaire, les cellulaires, c'est rendu no way dans les écoles, t'as plus le droit de prendre ton cellulaire sur le terrain de l'école. Est-ce que, puis le journal avait aussi un texte là-dessus la semaine passée, les jeunes sont pas caves, hein? Les jeunes, ils trouvent des moyens de contourner ça?
Oui. Mais pour le moment, dans la balance des inconvénients, on est assurément à la bonne place.
Ah ouais?
Je pense qu'on ferait un sondage au niveau de mes collègues, puis c'est vraiment, là, c'est beau, là. Les jeunes, ça joue au soccer, ça joue au volley, ça joue au uno, ça joue aux cartes, ça nous demande des acquis.
Tu vois une bonne différence par rapport à juste l'année passée?
C'est le jour et la nuit.
Ah ouais?
Même le son, c'est plus bruyant et c'est très positif, ça se parle plus.
OK.
On a très, très peu. Là, on a nos champions qui, présentement, vont aux toilettes un petit peu trop longtemps. Là. Ils ont trouvé un angle mort pour utiliser le téléphone. Mais c'est correct, on est quelque part de famille qui l'utilise aussi, ce truc-là. Donc, on réussit là, un peu à venir placer ça. Oui, il y a des jeunes, mais tu sais, il y avait quand même déjà des jeunes qui sortaient du terrain d'école. Mais de dire qu'on a un exode de nos jeunes là-dessus, plus ou moins, on voit vraiment, tu sais, quelques-uns sûrement, mais on voit vraiment juste plus de monde dans l'école qui se parle.
Bon, ben
ça,
bonne.
C'est sûr et certain, puis qu'ils interagissent. Oui, oui. C'est que positif.
Bonne nouvelle. Luc Paquet, directeur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne, on jasait des impacts des compressions budgétaires imposées au Centre de services scolaires du Québec en lien avec un article dans le Journal de Québec aujourd'hui. Luc, merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Ben, bonne nouvelle, ça, pour les téléphones cellulaires, que l'impact concrètement là, par un directeur d'école se voit de voir des kids qui vont jouer aux cartes d'impose, puis le midi à la place d'être la face dans leur téléphone, des kids qui vont jouer au hockey, qui vont bouger à la place d'être sur TikTok puis ces affaires de même. Fait que Colin, très, très bonne nouvelle pour venir compenser la moins bonne nouvelle des compressions qui viennent affecter les services. Du côté de Luc Paquet, on va se le dire, ça a l'air d'avoir été super bien géré à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. Quand il dit, pour les élèves, il n'y a pas moyen de le voir, mettons, aisément. Là, tu le remarques pas, mais c'est sûr que ça a été tout un casse-tête. Fait qu'en même temps, ça va peut-être donner un point à ceux qui disent, ben vous voyez, ça veut dire qu'il y avait trop de dépenses puis qu'on fait bien d'amener des compressions. Il y a peut-être un point à faire là-dessus. Là. Il y aurait peut-être quand même eu un juste milieu à trouver. Mais bonne nouvelle, si le service aux élèves directement est le moins affecté possible, ben ça aussi, c'est super bien. Parce qu'on se rend compte, tu sais, dans le journal, c'est poche de lire qu'il y a des kids qui pouvaient auparavant jouer au soccer, mettons, après les cours, des activités parascolaires, puis que ça leur coûtait pas une scène, fait qu'ils faisaient du sport. Pis, et là, à cette heure, ben, ça coûte, je pense, c'était 200$ s'inscrire. Ben, c'est plate, mais il y a bien des parents qui n'ont pas ces 200$-là à investir pour que leur kid puisse jouer. Puis ce que ça fait, c'est que le kid ne joue plus. Parlant de sport, au retour, on jase avec Alex Laramé, journaliste au 99.5 Montréal, parce que ce soir, premier match préparatoire de la saison du Canadien de Montréal. Qui va jouer? Qui jouera pas? Quelles sont les luttes à surveiller? Il est 10h34 dans le Point de Max. Le Point de Max. 10h41 dans le Point de Max à Boulevard 102. C'est à 15 degrés à Québec. Présentement, on attend 17 avec de la pluie au courant de la journée. Demain, 23 degrés, 30% de possibilité d'averse. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 21. Jeudi, 17 degrés avec de la pluie. Puis après ça, un beau week-end en vue de vendredi à dimanche. Là, c'est alternance soleil et nuages avec des températures de 21-22 degrés. Quoi que ce soit, 418-971-1021 par texto. Et là, ben, je m'adresse particulièrement aux amateurs de sport. Parce que c'est le grand jour. Pas le vrai grand jour, mais le grand jour préparatoire, appelons-le de même. Le Canadien de Montréal qui débute ce soir son calendrier pré-saison 2025. Bon là, certains vont dire « Ouais, ça joue gros un peu pour un match préparatoire. » Eh oui! Mais qu'est-ce que tu veux, on a hâte au Québec au début de saison du Canadien, puis avant d'arriver au début de saison, il faut arriver au début de pré-saison. Et pour en parler, ben on va aller rejoindre quelqu'un qui est direct dedans à Montréal. C'est l'ami Alex Laramé qui est au bout du fil. Salut Alex!
Salut Max!
T'es-tu autant excité que moi à avoir envie de faire jouer du Coldplay puis t'imaginer entendre Michel Lacroix qui dit « Accueillons nos Canadiens »
Ah, ça fait du bien, hein, quand la saison du Canadien recommence. Même si c'est des matchs préparatoires, là, je pense qu'on fait bien de le souligner parce que au Québec, tu sais, oui, on suit les autres sports, mais au fond, on reste quand même des fans de hockey. Donc, évidemment qu'on est très excité là à l'idée que le Canadien va fouler la glace du Centre Bell ce soir. Et en plus, je pense que les amateurs qui seront sur place vont quand même avoir quelque chose à se mettre sous la dent, du moins du côté du Canadien.
Ouais, parce que l'alignement des pingouins, c'est pas le gros stock. J'ai fait le tour en début d'émission. Là, je vais le refaire rapidement, du moins pour les noms qu'on connaît. Parce que c'est quand même cool, il y a une couple de Québécois là, qui vont enfiler l'uniforme pour les Pens ce soir. Bokonji Imama, Samuel Poulain, Anthony Manta, l'ancien du Canadien Raphaël Harvey-Pinard également, qui devrait être en uniforme. Il y a un ancien de la LHGMQ en Ryan Graves également. Mais c'est ça, tu sais, en bout de ligne, là, tu regardes les joueurs de calibre LNH dans ce line-up-là, il n'y en a pas beaucoup. Bon, Roby Fabry, Tommy Novak, Denton Heinen, mais même ça, c'est pas le gros stock. Matt Dumba, Connor Clifton. Devant le filet, c'est Sergei Mourachov et Joel Blomqvist. Fait que du côté des Pingouins, c'est mollo ce qu'on envoie comme alignement du côté de Montréal. Par contre, tu dis qu'il y a des trucs intéressants. Dans les dernières minutes, on a eu l'alignement qui devrait être sur la glace pour le Canadien. Puis il y a quand même des trucs qui sont à surveiller, Alex.
Non, effectivement, à commencer par ce qui devrait être le premier trio ce soir. La nouvelle venue, Ivan Demidov, va être au Centre Bell. Fait que ça, je suis certain que tous les partisans de Thiage vont être très contents de le voir. C'est Kapanen qui est au centre de ce trio. C'est quand même à noter que Kirby Dach est écarté du premier match, du moins, avec évidemment Patrick Laine à gauche. Pour moi, c'est vraiment eux qu'on va regarder ce soir. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Kapanen est capable de faire sur ce trio-là. On connaît l'état de santé de Kirby Dach. On s'attend quand même à ce qu'il soit du premier match. Toute l'organisation du Canadien a spécifié qu'il devrait être de la formation lors du premier match. Mais quand même, si Kapanen est capable de tirer son épingle du jeu puis de faire fonctionner ce trio-là, ça va peut-être causer des problèmes à Martin Saint-Louis qui... Ça pourrait être difficile de l'écarter de la formation.
C'est pas anodin là, de retrouver Kapanen au centre de ces deux-là. C'est un genre de « Hey, Kirby, on a... » Tu sais, Martin Saint-Louis a bien fait les choses, je trouve, en disant à Kirby Dach que c'était le deuxième centre, le dit dans les médias, fait que ça vient lui enlever un peu de pression. Mais en même temps, en envoyant Oliver Kapanen au centre de ce trio-là ce soir pour le premier match préparatoire, ben tu dis un peu à Kirby Dach: hey, là, pour l'instant, en effet, t'as ta place de deuxième centre, mais assis-toi pas sur cette place de deuxième centre-là, parce que il y a des jeunes qui vont pousser pour prendre cette place-là. Un de ces jeunes-là, ben, c'est justement Oliver Kapanen. Fait que pour Kirby Dach, c'est vraiment une place qui est à perdre. Puis d'un autre côté, on sent qu'il est encore pas à 100% est en mesure de jouer. On l'a vu dans les derniers jours depuis le début du camp d'entraînement. Mais on sent qu'il y a encore, il est encore en réhabilitation, Kirby Dach. Fait que faut pas voir trop loin puis déjà penser qu'il est sur le bord de se faire prendre sa place par Kapanen. Je pense pas que c'est ça, mais c'est pas anodin non plus de retrouver le jeune Finlandais là.
Non, exactement. Selon moi, c'est une audition pour Kapanen. Puis on sait qu'en ce moment, il y a peut-être un ou deux postes à l'attaque qui sont encore disponibles, parce que le deuxième trio qui va jouer ce soir, c'est Evans, Anderson, Gallagher. Ça, je pense que c'est assez blindé. On va les retrouver ensemble lors du premier match. Ensuite, on a deux trios, j'oserais dire, qui vont jouer à Laval là, avec Owen Beck, Sean Farrell et Philippe Méchard. Puis ensuite, on a Belzile avec Davidson Condotta. Donc, on a deux trios du Canadien ce soir et deux trios de Laval. Mais définitivement, pour moi, ça va être de voir qu'est-ce que Kapanen est capable de faire. Parce que tu l'as dit, Kirby Dach va être au centre du deuxième trio lors du premier match. Mais Kapanen peut peut-être se tailler une place au quatrième trio. Puis on le sait, une saison, ça évolue très, très vite. On a vu d'ailleurs Kirby Dach durant la fin de semaine, presque se faire ramasser par Harbour Jacky. Si c'était une vraie rencontre, je veux dire, Jacky l'aurait pas ménagé. Là, on était entre collègues, là, donc on n'a pas voulu y aller trop fort, mais définitivement, on sait que l'historique de Kirby Dach. Donc, pour Kapanen, moi, je trouve que c'est une super belle audition ce soir, puis ça va être très intéressant de le voir. Puis il y a beaucoup de monde aussi en défense, ça va être intéressant.
Ouais, ben tu sais, pour finir sur l'attaque, là, oui, il y a Oliver Kapanen qui va se battre pour une place. Owen Beck aussi, j'ai l'impression. Lui qui est au centre du troisième trio entre Farrell et Messard ce soir. Je pense qu'Owen Beck a ce qu'il faut pour se battre dès cette année avec un gars comme Kapanen. Il y a Samuel Blais aussi. Lui ne joue pas ce soir, mais c'en est un qui va se battre pour le dernier poste en attaque. Même Joshua Roy fait partie du lot. Fait que c'est une des belles luttes à surveiller, ça, celle de cette dernière place disponible-là en attaque. En défense, tout est pas mal joué. Ce soir, on va avoir la chance de voir le duo Mike Matheson-Noah Dobson. Ben, hâte de voir ce que ça va donner. Après ça, ben, t'as Goulet et Lane Hudson. Fait que ton top 4, ben, il est là. Là, t'as Alexandre Carrier, puis il va te rester après ça une place qui appartient vraisemblablement à Harbour Jacky. Puis peut-être que Jaden Struble va se battre aussi pour cette place-là. Puis peut-être qu'on va alterner de match en match. Mais en défense, il n'y a pas ben de place pour un jeune qui pousserait.
Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis même dans l'alignement de ce soir, tu l'as dit, Matheson, Dobson, mais Struble est jumelé avec Engstrom ce soir. Donc, si on lit entre les lignes, ça laisse présager que Jacky va jouer avec Alexandre Carrier probablement dans les prochains matchs préparatoires. Donc, Trouba se ramasserait un peu à être le septième. Il a quand même signé un nouveau contrat cet été, donc le Canadien est encore dans les plans, mais visiblement, il se ramassait à alterner sur la dernière paire avec Harbour Jacky. On l'a vu l'an dernier aussi, les deux alternés. Donc non, je suis pas mal d'accord avec toi qu'en défense, les dés sont pas mal joués, même si Rambacher arrivait avec un excellent camp d'entraînement, selon moi. C'est peut-être le seul qui aurait une possibilité de se tailler un poste, mais même encore là, je pense qu'on aimerait mieux le voir à Laval disputer quelques matchs, parce qu'on l'a pas vu, on l'a pas vraiment vu dans la dernière année. Il a été blessé, il est revenu en fin de saison avec des résultats, disons, mitigés. Il y a certains matchs qui ça avait bien été, d'autres matchs, c'est un petit peu plus difficile. Fait que selon moi, pour lui, commencer la saison à Laval, c'est l'idéal, puis on sait comment ça se passe une saison. Il peut avoir un rappel plus tard durant l'année, mais pour le premier match, je suis totalement d'accord avec toi, Max. Je pense que les dés sont pas mal joués en défense.
Et devant le filet, puis ça, ben ce soir, je sais pas à quel point il y a de quoi surveiller là. Samuel Montembeau qui devrait être le partant. On dit que Jacob Fowler, la jeune sensation, sera l'autre gardien en uniforme. Là, j'ai pas vu encore si on prévoyait splitter le match entre les deux, faire un genre de moitié-moitié. D'après moi, c'est ce qui va arriver là, mais ça reste à être confirmé. Moi, ce que j'ai hâte de voir, ça inclut pas ces deux gardiens-là, parce que Sam Montembeau, on s'entend, commence, c'est numéro 1 à Montréal. Jacob Fowler va aller jouer à Laval. Peu importe ce qui arrive, pourrait avoir tout un camp. Pour moi, t'envoies ce gars-là prendre de l'expérience professionnelle chez le Rocket de Laval. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est Jakub Dobesch et Kaapo Kakkonen, parce que pour bien du monde, c'est déjà fait, il n'y en a pas de problème. Dobesch a prouvé qu'il appartenait à la LNH, puis c'est lui qui va être là, puis Kakkonen, le vétéran de 29 ans, va aller se partager le travail avec Fowler à Laval. Moi, j'ai envie de dire, attendez un petit peu, là. Je pense que Kaapo Kakkonen a tout autant de chances que Dobesch de commencer l'année à Montréal. C'est un gars qui a de l'expérience dans la LNH. Oui, dans les dernières années, ça a été plus du côté de la Ligue américaine. Mais Kakkonen, il y a quelques années, là, on le voyait comme un excellent jeune gardien qui avait un bel avenir dans la LNH. Moi, je serais pas surpris du tout de le voir commencer à Montréal. Je sais pas si pour toi, ta tête est faite aussi, puis c'est Dobesch, là, mais moi, je serais pas surpris pantoute qu'on ait une belle lutte devant le filet.
Non, honnêtement, je pense exactement comme toi, Max. Je pense que Kaapo Kakkonen pourrait vraiment venir brouiller les cartes. Tu parlais il y a quelques saisons avec le Minnesota. Il a joué des saisons de 24-25 matchs. C'est exactement le rôle de réserviste. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué de faire des saisons justement en tant que réserviste. Il y a eu certaines saisons avec des moyennes d'efficacité 910-916. Écoute, ça a quand même de l'allure. C'est sûr que dans les dernières années, ça a été plus difficile. L'année passée, il a joué pour 3 clubs de la Ligue américaine, mais définitivement, moi, je pense que le poste de réserviste est à gagner durant le camp. Puis je trouve ça intéressant, justement, que visiblement, je pense qu'on va avoir certains matchs qu'on va avoir, justement, Kaapo Kakkonen et Jakub Dobesch qui vont jouer le match, mais vont séparer le match en deux. Donc, ça va être intéressant de voir contre la même équipe comment les deux vont se débrouiller. Selon moi, c'est pas anodin là, qu'on ait décidé de séparer les deux comme ça. Montembeau, comme tu l'as dit, c'est le numéro un. Fowler, on le sait qu'il y a encore des croûtes à manger à Laval. Donc, ça va être très, très, très intéressant de suivre ça. Mais selon moi, Kaapo Kakkonen a quand même des bonnes chances, parce que ça reste que Dobesch, c'est un jeune joueur. Donc, on veut quand même qu'il joue des matchs. Donc, selon moi, peut-être l'envoyer à Laval, puis d'avoir une compétition aussi avec Jakub Fowler qui va arriver, qui n'aura pas tout cru dans le bec, qu'il va falloir qu'il gagne justement ses départs. Moi, je pense que ça pourrait faire une belle compétition à Laval. Un peu avoir peut-être un... qui se séparent les matchs 1-1 ou 2-2, dépendamment des voyages. On sait souvent, dans la Ligue américaine, on joue 3 matchs collés. Donc, 2-1, non, selon moi, ça pourrait être une belle lutte à Laval si jamais on envoie à Dobesch, mais selon moi, ça va vraiment jouer dans les matchs préparatoires. Le poste est à gagner.
Alex Laramée, merci beaucoup. On écoute tes sports avec la gang de Gravel dans le retour cet après-midi. Puis sinon, je rappelle aux gens que tu es journaliste au 99.5 Montréal. Bon match ce soir.
À toi aussi, Max. Ciao.
Salut. Je vous rappelle, le Canadien qui dispute son premier match préparatoire ce soir, 19h, face à des Pingouins de Pittsburgh qui ne ressemblent pas tant que ça aux Pingouins de Pittsburgh. Là. Attendez-vous pas à voir Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Chris Le Temps ce soir. Les noms les plus connus de l'alignement des Pingouins ce soir, ben au Québec, c'est sûr que c'est des Québécois. Là. Je vous les ai nommés tantôt, des Bocco Imama, Samuel Poulin, Anthony Manta, Raphaël Harvey-Pinard qui sera de l'alignement aussi, l'ancien de la LHMQ, Ryan Graves. Ce sont des noms qu'on connaît ici, mais c'est ça. C'est pas un gros alignement qui est envoyé par les Pingouins. Sagouin ce soir. Alors que je vous rappelle, pour ce qui est du Canadien de Montréal, on va avoir des gars comme Laine, Kapanen, Demidov, Anderson, Evans, Gallagher, Farrell, Beck, Messar, Davidson, Belzile, Condotta. En défense, Matheson, Dobson, Struble, Engstrom, Delgazo et Klerman. Et devant le filet, Samuel Montembeau. Est-ce qu'il partagera le travail avec Jacob Fowler? Est-ce qu'on va faire un genre de moitié-moitié? Je pense que c'est pas impossible. Vous rappelez la nouvelle qu'on surveille présentement du côté de Neuville, un homme là, qui serait localisé dans un chalet, la Sûreté du Québec, qui recherchait ce gars-là dans les dernières heures. Là, on est en négociation avec Jonathan Lachance-Derry. Il y avait eu hier poursuite policière. Le gars s'était sauvé. On l'a retrouvé ce matin, mais on est en intervention présentement. Le groupe tactique d'intervention qui est là, qui est en discussion avec Jonathan Lachance-Derry. Espérons un dénouement là, qui ne sera pas le pire dans ce dossier-là. Quoi que ce soit, 418-971-101, c'est le numéro pour me rejoindre en studio par texto. Audrey Pinchot s'en vient dans les prochaines minutes pour l'Open Mic. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Dans le Point de Max à Boulevard, 101-418-971-101, le numéro pour nous rejoindre en studio. Il y a le Twitch aussi, où la belle communauté aime bien réagir aux différents sujets. Fait que venez nous voir sur Twitch. Et quand je dis nous, c'est Audrey Pinchot et moi, parce qu'Audrey vient d'arriver en studio. Fait que pour lui faire plaisir, on va faire des petits sports. Les Capitales de Québec qui sont champions de la Ligue Frontier pour une quatrième année de suite. Es-tu surprise, Audrey?
Non, pas à tout.
Ben non, je sais, on le dit souvent à quel point ça va bien pour nos Capitales. Victoire dans un match ultime disputé hier du côté de Schaumburg. Justin Gideon, qui a été nommé joueur le plus utile des séries, le fameux MVP. L'organisation qui invite d'ailleurs ses partisans à rencontrer les champions ce soir de 17h à 19h au stade Canac. Pour ce qui est de nos remparts, c'était week-end d'ouverture. C'était un match à l'extérieur pour entamer la saison vendredi du côté de Sherbrooke et c'est une défaite de 2-1 des remparts face au Phoenix. Dans un match, ça s'est brassé, mêlé général notamment à un moment donné, ce qui a fait que Maddox Dagenais était suspendu pour le match d'hier, l'ouverture locale des remparts. Défaite de 4-3 face aux Saguenayens de Chicoutimi. Puis ce qui est poche un peu là-dedans, c'est que les remparts étaient tout seuls sur la glace. Après 20 minutes, c'était 2-0. C'était une domination totale au niveau des tirs au but. Par contre, les Saguenayens de Chicoutimi qui sont revenus de l'arrière, qui ont connu de bien meilleures 40 dernières minutes de jeu et ont réussi à assurer la victoire aux remparts, ce qui fait que c'est 0-2 après deux rencontres pour les troupes d'Éric Veilleux. Par contre, il y a des trucs que j'aime bien du côté des remparts, entre autres, là, de voir le jeu physique qui vraiment fait partie de l'ADN d'Éric Veilleux. On termine les mises en échec, on frappe fort aussi, puis ça, c'est bon pour le spectacle, mais ce sera pas le fun de venir jouer au Centre Vidéotron puis d'affronter les remparts, notamment une fois rendu en série. Puis cette année, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là, les remparts qui devraient aisément accéder aux séries éliminatoires. Beaucoup les voient autour du 10e rang du classement. Là, c'est sûr que ça n'a pas super bien parti en fin de semaine, mais deux matchs ne font pas une série saison, évidemment. Donc, on va continuer de regarder tout ça. Ça se poursuit en fin de semaine pour ce qui est de nos remparts. Du côté de l'Abitibi, voyage qui commence jeudi face aux Huskies du côté de Rouyn-Noranda. On va affronter les Foreurs aussi, pour qui ça a bien mal parti. Les Foreurs de Val-d'Or, là, deux défaites en fin de semaine. Une face aux Olympiques de Gatineau. Et une méchante rince de 7-0 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand pour les Foreurs, alors que l'Armada ne pouvait pas compter sur à peu près tous ses meilleurs joueurs, tous partis à des camps d'entraînement d'équipe de la Ligue nationale de hockey. Et parlant de ça, ben, le Canadien de Montréal qui commence son calendrier préparatoire ce soir, 19h, les Pingouins de Pittsburgh qui seront en ville. Quand je vous dis les Pingouins, par contre, faut pas s'attendre à ce que ce soit le gros alignement là. Sidney Crosby n'est pas là, Evgeny Malkin n'est pas là, Chris Letang n'est pas là non plus. Il y a quelques Québécois, fait que ça, c'est toujours le fun pour un match au Centre Bell. Entre autres, l'ancien du Canadien, Raphaël Harvey-Pinard, qui sera présent. Mais c'est sûr que niveau qualité de hockey, on n'est pas dans un match de saison régulière, mais vraiment pas. Et dans la NFL, duel intéressant au Monday Night Football ce soir. Les Lions de Détroit qui affrontent les Ravens de Baltimore. Il y a eu des gros matchs hier, des bonnes surprises, des résultats qui n'ont pas de maudit bon sens. Fait qu'on va en reparler ça dans la prochaine heure, là, après l'open mic du jour. Audrey, salut!
Bonjour!
As-tu passé un beau week-end?
Vraiment, il faisait tellement beau, là.
Moi, j'étais déçu, j'étais supposé te voir samedi soir.
C'est vrai?
T'es jamais venu.
Oui, mes plans ont changé, je devais te rejoindre, puis t'es avancé, je pense, dans ta soirée.
Ben, j'avais du fun.
Ben oui.
J'avais du fun.
Mais dans ce temps-là, tu sais, quand t'es pas en même place, t'es un peu moins propice.
C'est-à-dire?
Ben...
Toi, t'avais pas de fun?
Non, j'avais du fun dans ma soirée, mais dis, mettons qu'on parle en bon québécois, là, quand t'as pris un verre de trop puis que le reste de la gang est à jeun, t'es pas en même place, t'es pas dans le même univers.
Qui décide que le verre t'est trop?
C'est une perception.
OK.
C'est une perception.
OK.
Hey, aujourd'hui, on fait suite à ce qu'on a jasé lundi passé. Guillaume Dulude, qui est fondateur de Psycom, se spécialise, enseigne tout ce qui est psychologie, des relations humaines, communication interpersonnelle, était venu jaser avec nous d'un article qui était sorti, puis on parlait de la souffrance des hommes face au célibat. Si vous étiez avec nous, évidemment. Sinon, en gros, là, c'est un article de Slate qui parlait de recherches récentes où on dit que les hommes célibataires rapportent une moins bonne santé mentale et physique que les femmes célibataires. Puis là, on s'est mis à jaser de tout le contexte social autour de ça. On parlait des stéréotypes de la masculinité qui empêchent les hommes d'avoir une espèce d'exutoire émotionnel quand ils sont pas en relation. Bref, on était rendu très, très loin dans nos discussions. Puis en fin d'open mic, là, on se dirigeait vers un terrain glissant, mais très intéressant, je trouve, où on analyse l'homme et la femme d'aujourd'hui, nos comportements face au sexe opposé, entre autres en relation. Fait qu'on refait le monde ce matin. L'open mic. Just in time for
open mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pain.
Ça va prendre une ouverture d'esprit. Parce que j'ai l'impression qu'on va aller toucher une certaine sensibilité par rapport au féminisme, par rapport à comment les hommes se sentent dans la société d'aujourd'hui, par rapport à comment les femmes se sentent dans la société d'aujourd'hui. C'est un sujet que j'ai envie qu'on traite avec respect quand même. Vous avez le goût de participer? Ben, il y a le Twitch, twitch.tv, blvd-fm, et il y a le texto 418-971-1021.
T'es-tu prête, là?
J'ai le sentiment que c'est sensible comme sujet parce que on veut être bien compris d'un bord et de l'autre. On a une histoire, hein? Puis dans l'histoire encore récente, les femmes se sont pas toujours senties égales, je vais dire, au sexe masculin, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Puis d'un autre côté, ben, t'as des hommes qui ont tendance à dire, ben oui, mais les femmes veulent tellement être indépendantes que là, elles nous écrasent. Fait qu'il y a quand même une balance à aller chercher dans tout ça, des mots peut-être un peu plus doux à utiliser. Puis c'est tout ça qu'on va analyser avec Guillaume Dulude. Puis j'avais vraiment hâte à la chronique de ce matin. Guillaume, bon matin.
Allô, allô. Merci de l'invitation.
Bien, c'est toujours un plaisir. Moi, quand on peut refaire le monde ensemble, je trouve ça super intéressant. Peut-être commencer par te demander, d'où vient cette confrontation-là des sexes? Est-ce que c'est en cherchant l'égalité, justement, l'équité, en cherchant à être plus forte, je veux dire, qu'on crée des conséquences pour l'homme? Je ne sais pas si la question est claire. Est-ce que les hommes sont en crise identitaire? On dirait que j'ai plein de questions, mais d'où ça vient cette confrontation-là qu'on sent des fois?
On est droit dans le sujet, hein, n'est-ce pas? Conséquemment, ton introduction. Il y a plusieurs couches de réponse à ça, mais je dirais que il y a de plus en plus, depuis les années 70, de plus en plus de compétition entre les hommes et les femmes. Pour plein de raisons, plein de changements, des mouvements qui sont là et qui font en sorte que là, les places et les rôles sont moins clairs. OK, en gros, les rôles sont pas clairs, surtout pour les hommes maintenant. Les hommes, on sait de moins en moins à quoi ils servent. Qu'est-ce qu'ils amènent? Qu'est-ce qui est spécifique à eux? Quelle est leur place? Quelle est leur contribution? Tout est remplaçable de plus en plus. Donc, les hommes, oui, sont dans une espèce de crise en ce moment. Puis les femmes, elles ils ont vraiment le moteur en arrière d'eux autres. Là. Sont assez en feu, ce qui est super, mais ça amène quand même une perturbation de la balance, là, si je peux dire. Puis la compétition, ça va, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie pour créer des relations.
C'est quoi la balance? Mettons qu'on met des mots, là. T'sais, on a comme la perception que l'homme, si on parle au côté animal, là, on retourne dans le temps. Là. Mettons qu'on n'est pas évolué socialement. Là. L'homme est pourvoyeur, la femme, c'est quoi, reste plus à la maison. C'est quoi pour toi cette balance-là naturelle? Mettons qu'on l'explique.
Bien, premièrement, il n'y a pas de balance absolue. Hein. C'est des petits moments de balance à certains points dans l'histoire, adaptés à un concept, à un contexte. Donc, il n'y a pas de balance ultime. Ça n'existe pas, la balance ultime. On ne sait pas ce que c'est, la balance ultime. C'est sûr que si tu veux des réponses absolues à ça, ben là, il faut se réfugier dans des cadres très stricts, comme par exemple la religion, puis où il y a des cadres puis des rôles très déterminés. Mais dans un contexte social changeant, technologique changeant, on ne connaît pas exactement c'est quoi la balance. Donc, ce qu'on sait, c'est que plus on recule dans l'histoire, plus la société, elle est traditionnelle. Pour survivre, ça prend une répartition des rôles qui est très, très claire. C'est-à-dire que les femmes vont rester proches de la maison, proches des enfants. Puis les hommes, ben, c'est eux qui vont s'éloigner plus, ils vont aller chasser plus, ils vont aller mourir, se battre. Donc, il y a eu différents rôles qui ont été conservés, qui nous amènent à l'humanité où on est là aujourd'hui. Mais là, étant donné que les choses changent, ben, ça veut dire qu'il faut retrouver un nouveau design. Et on n'est pas là en ce moment. On travaille pas activement là-dessus. À ce moment, oui, excusez-moi, je suis parti.
Le problème, entre guillemets, c'est donc pas l'évolution, c'est qu'on sait pas où se placer dans cette évolution-là.
Oui, je dirais, c'est un bon résumé. On ne sait pas où on s'en va. On n'en a aucune idée. Et donc, sur le plan individuel, sur le plan du futur, point. Et donc, les relations hommes-femmes, c'est pas ça qu'on promouvoit. On promouvoit gagner quelque chose.
Ça prend combien de temps à une société à s'adapter? Tu sais, là, on parle de cette espèce de confrontation homme-femme-là, mais en général, là, tu sais, je veux dire, toute génération, toute époque a ses concepts, ses idéaux. Ça prend combien de temps avant d'adopter ces idéaux-là, avant de s'adapter finalement?
Je le sais pas. Ça dépend du type d'adaptation, puis ça dépend ce qu'on qualifie comme étant un succès, c'est-à-dire, OK, est-ce qu'on est adapté là? Donc, tu sais, la déclaration de ça y est, on a trouvé notre balance, notre adaptation, elle n'est pas claire et ce l'est de moins en moins parce que les choses changent de plus en plus vite. Donc, juste technologiquement, on ne sait même plus qu'est-ce qui va être une job d'humain, une job de non-humain. Fait que juste là, en ce moment, on est complètement dépassé. Dans 3 ans, on ne pourra même pas avoir le même genre de discussion qu'on a en ce moment. Dans 3 ans,
C'est
on
fou,
n'en
hein?
a aucune idée. Donc, si on va à une autre étape, le sens de la famille, le sens de l'éducation, la répartition des rôles, la collaboration. C'est quoi être un homme? C'est quoi être une femme? Tout ça, c'est amené à changer et ça va changer de plus en plus. Et il y a pas vraiment de retour en arrière, étant donné la rapidité de l'évolution de la technologie en ce moment.
Pourquoi on est aussi fragile, Guillaume, quand on aborde ces sujets-là?
C'est parce que ça touche des valeurs, ça touche des rôles, ça touche l'éducation qu'on a reçue, ça touche ce qu'on promouvoit de nous. Ça touche ce qu'on enseigne à nos propres enfants. Donc, quand tu perturbes un équilibre de valeurs comme ça perturbe ton monde, d'une part. Puis en plus, ça se peut que le monde que tu as créé dans ta tête, puis ta façon de voir les choses, il y a plein d'avantages à ça. Donc, si tu changes ta vision du monde, ça veut dire qu'il faut que tu laisses tomber certains avantages qui font bien ton affaire en ce moment. Donc, c'est que des mauvaises nouvelles à court terme quand quelqu'un veut changer ta façon de voir les choses. On n'aime pas ça.
Quand on parle de la crise identitaire de l'homme, t'sais, de ce que ça crée justement, cette évolution-là qu'on a au niveau sociétal en ce moment, qu'est-ce que ça crée comme réaction chez le gars? T'sais, on entend parler des fois de gros mots, là, les incels, encore tout ça dans la confrontation des sexes, là, le fait que les hommes ne savent plus comment se définir, qu'est-ce que ça crée? C'est ça qui amène les fameux mouvements masculinistes et compagnie?
Oui, qui sont pas. Je sais on en parle beaucoup, mais c'est vraiment pas la tendance dominante, les groupes masculinistes. C'est sûr que il va toujours avoir des extrêmes. Fait que t'as des extrêmes de groupes masculinistes comme ça, mais l'essentiel de l'impact, c'est, je dirais, un comportement général de retrait. Okay? Ça fait que les hommes vont juste se retirer parce qu'ils ont peur d'être rejetés, sont plus sensibles au rejet que les femmes, ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de la culpabilité. Alors, c'est une grosse arme présentement pour, si tu veux, faire en sorte qu'un groupe, une personne recule, tu utilises des armes qui vont créer la culpabilité. C'est ça qui va créer la brèche dans le cœur, si tu veux. Donc là, les hommes se sentent très coupables d'un peu tout, d'un peu rien. C'est pas clair, mais bref, tout ça, ça les garde en mode retrait. Et même s'ils voudraient prendre leur place, c'est pas clair quelle place on attend des hommes. Donc les rôles sont flous, les buts sont flous, la culpabilité est très là. Être un homme puis avoir des caractéristiques masculines, c'est pas très à la mode. C'est rendu de la masculinité toxique. Donc, tu sais, c'est quoi les angles où un homme peut shiner en ce moment? Faut les chercher bien comme il faut parce qu'ils sont pas évidentes.
Comment on peut travailler à ce que collectivement on en arrive à un portrait où tout le monde sait un peu mieux comment se placer? Comment on fait pour revenir là?
Je pensais à cette conversation-là ce matin, puis je me disais, mon Dieu, j'ai pas de grande solution, à part quelque chose qui peut paraître assez naïf, c'est ça prend plus d'habileté relationnelle, ça prend plus d'habileté d'équipe. Faut revenir à l'équipe de base, parce qu'on pourra pas changer l'évolution des choses, les rôles qui changent, le monde qui change. Fait que ça, je dirais que c'est pas une bonne solution, se concentrer là-dessus, puis se de définir des rôles absolument clairs, puis des guidelines clairs qui vont être amenés à changer de toute façon dans 3 mois. Donc, je pense que c'est des habiletés de dialogue, des habiletés relationnelles, la valeur de l'équipe, la valeur d'avoir une relation qui est positive, de dire que c'est faisable, que c'est possible, avoir des habiletés pour faire ça. Donc, moi, je dirais que pour l'instant, les relations, c'est toujours la meilleure arme.
Mais c'est comme, il y a une ironie là-dedans parce que j'ai le sentiment qu'au niveau de la société, on est dans un momentum où il faudrait communiquer plus que jamais. Mais ironiquement, avec les technologies, ce qui nous entoure, on s'isole plus que jamais. Fait que j'ai l'impression qu'on crée un peu nous-mêmes cette confrontation-là. Puis il y a beaucoup de femmes qui se demandent pourquoi il y a certains hommes qui vivent l'émancipation des femmes, je vais l'appeler comme ça, comme une genre de menace personnelle au lieu d'un progrès collectif.
Encore là, c'est vraiment une excellente question. C'est parce qu'il y a des choses, des effets qui sont visibles, qui sont favorables, comme par exemple, on sait que la qualité dans la plupart des pays est corrélée à l'éducation des femmes. Donc, si tu veux penser big picture, tu veux penser éducation pour tout le monde, homme-femme. Donc, ça, on sait ça. Donc, tout le monde a intérêt. Il y a l'intérêt général là-dedans. Mais il y a un autre point de vue, c'est OK, mais comment je me valorise moi, comment je contribue moi, et c'est là où on arrive dans le rôle des hommes qui sont un peu flous. Puis comme tu le disais tantôt, un homme qui est isolé, c'est déjà vraiment pas une bonne nouvelle. Donc un homme isolé, c'est un homme qui va bâtir dans sa tête une façon de détester le monde. Donc, et les personnes qui vont détester le plus, ça va être des femmes parce que ils se sentent rejetés des femmes. Il n'y a rien qui vaut plus cher pour un homme que cette approbation-là, si on veut. Donc, si un homme sent qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas sa place, peu importe ce qu'il fait, il l'aura pas. Donc, il va être isolé. Puis ça, c'est les fameux groupes incels, c'est les fameux les hommes qui peuvent devenir dangereux. Donc, l'isolement, c'est la pire chose qu'on peut pas faire en ce moment.
Les incels, dans le fond, pour les gens qui n'ont aucune idée de quoi on parle, c'est des hommes qui vont avoir des discours misogynes, qui vont détester la femme jusqu'à peut-être même porter des gestes irréversibles.
Oui, c'est ça. Ce sont des catégories spéciales d'hommes qui sentent qu'ils n'ont aucun moyen pour être sur le marché. En gros, c'est ça. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, par survie, ben, la haine s'insère dans le cœur de ces gens-là. Et oui, ça peut donner t'sais, des crimes, ce qu'on appelle des crimes haineux, comme des féminicides. Ça, c'est sûr que ça existe. Puis, on veut pas de processus qui fait en sorte qu'il y a des hommes qui se sentent exclus. Donc, ce qu'on veut, c'est que les hommes se sentent inclus, mais il faut les équiper également, parce que des hommes qui doivent travailler un petit peu sur eux là, pour pour avoir les habiletés nécessaires pour prendre part à cette société-là. Donc, c'est à plusieurs niveaux.
Si on parle de la formation des couples, là, de la recherche de l'amour, là, puis dans notre société d'aujourd'hui, est-ce que la quête d'un partenaire, c'est devenu peut-être un peu trop cérébral, un peu trop stratégique au lieu d'être naturel? Comprends-tu ce que je veux dire?
Je pense que oui. Est-ce que tu fais appel un peu à les stratégies là, de dating en
Ben,
ligne, puis des choses comme ça?
la dernière fois, Guillaume, on a terminé notre discussion en parlant un peu, entre autres, tu sais, des femmes qui vont avoir des exigences X, Y, Z envers les hommes.
T'es une 6, tu veux un 10.
C'est ça, t'es une 6, tu veux un 10, puis
Oui,
pareil
c'est
pour ce
ça.
qui est de l'homme. Fait que je me demande si on est rendu peut-être un peu trop, c'est ça, stratégique, cérébral dans notre façon d'approcher une future douce moitié, mettons.
Je suis d'accord avec ça. Je pense que ça fait le lien avec ce que tu parlais là, de la technologie d'information puis communication qui augmente, mais ça augmente pas nos interactions sociales, ça nous isole. Ça fait en sorte que si tu te dis, entre guillemets, que tu communiques, mais sans les composantes de risque émotionnel, de prendre des risques dans des relations, ben ta communication, c'est une forme de consommation humaine. Donc, ce n'est pas des relations que tu construis. Donc, tu consommes l'idée d'avoir quelqu'un qui va te rendre heureux, mais tu magasines un partenaire comme tu magasinerais n'importe quoi. Donc, le magasinage de partenaires, ça fait en sorte que tu regardes, c'est quoi les critères que je veux, et moi, je veux les meilleurs critères. Donc, c'est comme tu magasines quelque chose. Alors qu'une relation, c'est pas juste à propos de ça, c'est à propos de qu'est-ce que toi, tu as donné dans une relation, puis qu'est-ce que tu es prêt à construire dans cette relation-là. Fait que c'est pas en tout le même mindset. Le mindset de magasiner des humains, puis de dire, moi, je veux l'idée de cette relation-là avec tel partenaire, versus se mettre les mains dans le travail réellement, puis aller parler à du monde, puis aller te chicaner à du monde. Les gens veulent plus chicaner maintenant, là. Alors que si tu sais pas comment faire pour te chicaner, ça va être vraiment difficile d'avoir une relation à long terme. Donc, on se réfugie dans des critères qui sont toujours plus sexy. On se réfugie dans le magasinage, mais la vraie vie a rien à voir avec ça, la vie relationnelle.
Parlons de la femme. Je vais essayer d'ouvrir mon esprit un peu. J'ai le sentiment, puis on généralise ici en passant, là, t'sais que la femme va glorifier le célibat comme une force. Strong and independent woman who don't need no man, on l'a beaucoup entendu, cette phrase-là. Du moins, moi, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais, entre autres, au secondaire. T'sais,
Oui.
aujourd'hui, on va voir des femmes qui vont faire des enfants seules, vont aller se faire inséminer, vont entamer un processus seules, pas besoin de gars là-dedans. On cherche plus un pourvoyeur, on préfère être seul que mal accompagné. Je le mets entre guillemets ici. Est-ce qu'on est narcissique, Guillaume?
C'est qui on?
Ben, je vais
La
généraliser la
femme.
femme. On est sur un maudit terrain glissant, là. Mais est-ce que, la dernière fois, on a abordé un peu le narcissisme, puis je me demande si, par le fait, justement, qu'on a tellement cherché un genre d'équité, ben là, on veut être la femme forte qui est indépendante, qui n'a pas besoin d'un homme dans une relation
Je
dans
fais
sa
tout
vie.
tout seul,
Je
je
fais
suis
tout
capable de
ça,
tout faire.
exactement. Fait que, est-ce qu'on est un peu narcissique dans ce processus-là? Je suis trop bien pour un homme. Comprends-tu ce que je veux dire?
Oui, je comprends. Je suis déjà en train de réfléchir à comment même je vais te sortir ça.
C'est un bandeau à marde, je te le concède.
Bon, alors, premièrement, les hommes sont toujours plus narcissiques que les femmes, OK? Par nature. OK? Fait que ça a toujours été comme ça. Les femmes ont des caractéristiques un peu différentes. Par exemple, les femmes sont plus agréables, sont plus empathiques que les hommes, en général. Les moyennes, peu importe, là, dans quelle culture, ce sont c'est transculturel. Alors, il y a un phénomène qui est nouveau, qui est là depuis je dirais autour de 2005-2007. C'est qu'on voit une augmentation drastique du narcissisme chez les femmes, particulièrement les jeunes femmes. Donc, on est habitué à ce que les hommes soient plus narcissiques pour différentes raisons que les femmes. Mais là, ce qui est inquiétant, ce qui est bizarre, c'est le changement radical de tendance. Donc, la réponse à ta question, c'est oui, il y a une augmentation du narcissisme. Les hommes sont toujours plus narcissiques que les femmes. Les hommes, ça bouge pas vraiment en ce moment, mais les femmes, ça pique vers le haut beaucoup, beaucoup. Et c'est alimenté par plein de choses, des courants activistes, mais aussi les médias sociaux. Parce que le narcissisme est très relié à l'image de soi et la beauté physique. Et l'image, les médias sociaux, les photos, Instagram, les filtres, ça tape directement dans l'image de soi. Donc, plus une personne se voit belle, se sent belle et admirée, ça va immédiatement se carrer dans du narcissisme. Donc, les médias sociaux vont cibler plus particulièrement les jeunes filles et on sent cet effet-là, entre autres, dans le narcissisme.
C'est très... Tu t'en es bien sorti, je trouve, pour un bâton aussi glissant. mais visiblement, moi, ce que je vois de ça, puis dans des discussions que j'ai eues avec des chums de gars, puis encore une fois, on est dans la généralisation des grands concepts. Là. Il n'y a rien de personnel dans tout ça, mais le fait que la femme pense qu'elle mérite toujours mieux, ça isole, veut pas, les gars qui ont plus cette confiance-là d'aller vers les femmes. Puis Max, je sais pas, toi, tu sais comment, par rapport à ça au quotidien, tu es dans cette fleur de l'âge lot, tu es célibataire, puis tu es à la chasse, là, je vais le dire comme ça. Là. Non, mais je dis ça parce qu'on... je trouve qu'on parle comme si on était des animaux en ce moment-là. T'sais, on parle de l'homme et la femme sans
mais au contraire, j'y vais pas à la chasse par la peur du rejet. T'sais, moi, j'ai Tinder, puis Tinder, ce qui est le fun, c'est que si elle a un intérêt, ben vous allez matcher, fait qu'automatiquement, tu sais qu'elle a un intérêt de base. Puis des fois, c'est intéressant.
Mais elle a un intérêt pour l'image.
Exact.
Puis la belle quote que tu vas mettre en dessous de ton profil.
Ouais, ça, j'ai avec les maudites citations Tinder, ça, je suis pas bon avec ça. Mais alors, dans un bar, je suis pas capable d'approcher quelqu'un, là. Oublie ça. La peur du rejet, oublie ça. Il y a aucune chance dans un bar que j'aille voir une belle fille, ben je me dis, c'est sûr qu'elle me rejette. C'est sûr, c'est sûr. Fait que j'y vais pas.
C'est triste. Alors, pareil.
C'est très courant, ça. Oui, c'est très courant, ça. Surtout dans notre culture, c'est pas partout comme ça dans le monde. Il y a des cultures où on encourage la séduction, on encourage les premiers pas, puis les femmes savent comment mettre leurs limites tout en fermant pas la porte ou en créant pas de rejet, tu sais, parce qu'il y a toujours moyen de dire non façon élégante sans créer du rejet. Mais dans notre culture, on n'est pas dans cette twist-là en ce moment.
C'est surtout que, étant donné que ça, j'ai l'impression que ces applications-là, cette façon-là de dater qu'on a aujourd'hui, accentue un peu l'espèce de compétition, de malaise, de rejet possible. Je sais pas, je trouve que c'est... tu sais, je t'en ai parlé la semaine passée, Guillaume, là, moi, je nouvellement, seul, célibataire, m'a dit que j'ai jamais eu la chienne même de ma vie, là. Parce que tu sais pas, on dirait, où te diriger. J'ai envie de te demander, dans tout ce concept-là de rôle plus défini qu'on avait avant. C'est quoi le meilleur fit amoureux? C'est-tu un couple qui va se compléter? Tu sais, on parlait de rôle, justement, qui se complète, où on n'est plus là pantoute aujourd'hui.
Y a des choses qui continuent à s'appliquer, c'est-à-dire que les couples qui ont, un, les meilleures habiletés de communication, deux, qui ont y a plus d'intérêts communs. Les intérêts communs est définitivement un ligand qui va augmenter les chances d'un couple à être ensemble longtemps. Les buts communs également, donc c'est très en lien avec les intérêts communs, mais tout ce qui touche l'équipe, hein, fait que dans le fond, c'est comme but commun, intérêt commun, c'est notre meilleur guess. On a plus d'avantages à être avec une personne qui nous ressemble qu'une personne qui est complètement différente que nous pour du long terme. Pour du court terme, tu es plus stimulé par une personne qui est complètement différente que toi parce que c'est de la nouveauté. La nouveauté score dans la dopamine. Mais si tu veux construire une relation, on n'est plus dans le divertissement du tout, on est dans du projet. Puis dans le projet, il faut être capable d'avoir le plus de buts possible, le plus de quotidienneté positive possible. Donc, les intérêts communs vont jouer énormément là-dedans.
Je vais terminer, Guillaume, en te demandant comment collectivement on peut guérir cette rupture homme-femme-là, là, sans tomber dans la polarisation. Là. Puis évidemment, la communication, c'est la réponse facile, mais je me dis, est-ce qu'il y a une manière d'enseigner aux plus jeunes garçons d'aujourd'hui comment...
Mieux se sentir.
Oui, prévenir ces blessures-là relationnelles futures ou comment effectivement trouver leur place d'une certaine façon. Tu sais, c'est touché, là. On vient tellement tous de milieux différents.
Oui, c'est encore là, il n'y a personne qui a la clé de ça parce qu'en ce moment, on ne sait même pas quoi enseigner à nos enfants. On ne sait même pas quelle matière vaut la peine d'être étudiée à l'école. Fait qu'on est là en ce moment de dire, il faut encourager l'éducation. Mais quelle matière? Pourquoi faire? pour faire quel job? On ne sait même pas ce que le monde de quoi il va avoir l'air dans 4 ans.
On est perdu. Hein?
On est vraiment dans une phase particulière de l'humanité. Là. En ce moment, on n'a plus le gros bout du bâton. On ne sait pas où est-ce que la technologie tire en ce moment. On essaie de courir après, mais on ne le sait pas. Donc, si on revient aux relations hommes-femmes, ben, je pense qu'il faut revenir à des valeurs de base comme les défis, le courage, définir son identité, définir tes forces, être capable de travailler en équipe, de travailler en équipe avec des personnes différentes de toi, de régler des conflits, d'avoir de l'imagination. Vous allez me dire, ah, c'est des affaires assez de base, mais c'est des affaires de base qui sont pas là en ce moment. Donc, moi, je pense que plus on s'en va dans de la technologie, plus il faut être armé solidement en psycho.
C'est fou parce que on est au courant, justement, de ces conseils-là, de ce discours-là. Il y a les belles phrases toutes faites sur Instagram là, qui se promènent, tu comprends? Mais on les incarne pas. Moi, c'est ça qui me fascine. On a les solutions entre les mains, on sait ce que ça prend, mais c'est comme si ce discours-là, c'est ça, on l'incarne pas. C'est vraiment le meilleur mot que je peux utiliser. On n'est pas ce qu'on veut être.
Mais c'est parce que c'est pas clair. Mettons juste la santé, OK? Est-ce que quelqu'un est contre la santé?
Non,
j'ai jamais rencontré quelqu'un contre la santé. Puis là, tu dis à une personne, qu'est-ce que tu fais exactement pour vivre ce projet-là de santé à tous les jours? Il n'y a aucun plan, la plupart du temps. C'est des idées, c'est des concepts. Oui, j'ai lu ça quelque part. Ce n'est pas intégré dans un plan parce que, c'est un défi. Puis deux, il y a tellement d'informations qui circulent que c'est très difficile d'avoir l'heure juste sur dans quoi je me lance. C'est tout un investissement. Donc, on a accès à tellement d'informations que c'est très dur de transformer ça dans un plan. Puis comme tu dis, l'incarner. Hey, l'incarner, là, ça veut dire qu'il faut que je vive, il faut que je pense, il faut que je parle comme ça, il faut que je sois cet exemple-là. Hey, un instant, là, j'ai besoin là, de me faire éclairer une couple de choses. Là. C'est compliqué le monde là, maintenant. Là. Il n'y a pas une façon de vivre. Donc, c'est comme comment je trouve mon, comme tu dis, l'équilibre là-dedans. On essaie de faire ça avec l'enseignement de la psychologie, puis en faisant des émissions comme vous faites, puis en essayant de démêler les choses une chose à la fois, mais on est dans un gros défi humain présentement.
Écoute, je pense qu'on l'a bien traité parce qu'on n'a pas de messages de haine qui sont rentrés jusqu'à maintenant.
C'est excellent.
Hey, Guillaume Dulude, un gros merci, c'est le fun de refaire le monde avec toi. Guillaume Dulude, qui est fondateur de Psycom, se spécialise dans tout ce qui est psychologie, évidemment, enseigne la psychologie des relations humaines, communication interpersonnelle, tout ce qui touche le développement. C'est toujours super intéressant de parler avec toi.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Puis une bonne journée à vous deux.
Salut, bonne journée.
Ah ouais, on marchait sur des œufs, mais on a bien marché sur des œufs.
Puis c'est toujours de faire.
On n'a pas cassé, on n'a pas fait d'omelette, je pense.
Je pense pas. Puis je vais te faire une confession, là. J'ai toujours peur de parler de ces sujets-là parce que.
Oui, c'était c'est quoi l'expression? On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. On a peut-être cassé, mais bien. C'est une bonne omelette.
C'est un bon omelette, notre affaire. Oh, c'en est une solide.
Ouais.
Mais j'ai toujours un malaise de parler de ces choses-là parce que j'ai le sentiment que, comme femme, c'est comme si je me mets à. Je me mets. Les femmes à dos, comprends-tu ce que je veux dire?
Moi,
je sais pas si c'est clair.
Je serais pas à l'aise de parler de ça, je sais, Guillaume.
Mais ben, c'est sûr. Parce que tu n'aurais pas la version.
Mais non,
totalement.
Je pourrais pas.
Puis tu sais, je te ramène à quelque chose. Quand il y a eu la journée des droits de la femme en mars dernier, le 8 mars dernier, j'ai fait une publication où, en plus de saluer les femmes de mon entourage, je saluais les hommes de mon entourage.
Ouais.
Je me suis fait ramasser. Puis le pourquoi je saluais les hommes de mon entourage, moi, je pensais que c'était clair dans la façon dont j'amenais le discours, mais je disais, tu sais, dans toute cette évolution-là d'égalité et d'équité homme-femme, ça prend des hommes ouverts d'esprit qui nous laissent s'épanouir. Puis moi, j'ai deux frères. Mon papa, je suis entourée de gars depuis que je suis toute petite. Puis ce que je suis aujourd'hui, la grandeur de femme que je suis capable d'avoir, les ambitions, ça fait partie d'où je viens. Et je viens d'un milieu où je suis entourée d'hommes.
Mais
tu comprends ce que je veux dire?
Ouais.
Et ça a mal été pris comme si... comme si c'est grâce aux hommes qu'on est où on est. Puis le message, il n'est pas là pantoute. Là. Fait que je trouve toujours ça touché de parler de ces sujets-là parce qu'on tombe rapidement. Tu sais, on grimpe des rideaux, on monte sur nos grands chevaux, on panique rapidement. Puis pourtant, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sain dans le fait de dire...
Oui. Hey, on est une équipe.
Ah, exactement. Exactement.
Comme nous deux dans l'open mic.
Oui, Max. Comme nous deux dans l'open mic. Fait que c'est toujours le fun de parler avec Guillaume. Je pourrais parler des heures de ce sujet-là. Je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire encore autant d'un côté que de l'autre dans nos réactions par rapport au sexe inverse. 88-971-1021, je ne sais pas si vous aimez ce genre de sujet-là. Moi, ça me passionne.
Merci beaucoup, Audrey. Au retour, une autre femme extraordinaire dans Le Point de Max. Pascal CV s'en vient, il est 11h35. Le Point de Max. Boulevard 101 vous invite à une soirée bénéfice au profit de la Fondation Plein Potentiel. C'est le 2 octobre que ça se passe dès 18h à la scène Le Bourgneuf. Fait que Dreticite dans le building. C'est animé par le chef Danny Saint-Pierre. Une soirée qui vous propose un parcours gourmand avec des chefs invités, un encan virtuel, des surprises et c'est pour une bonne cause. Les fonds amassés qui vont aider la Fondation Plein Potentiel à soutenir financièrement les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ainsi que leur famille dans la région de Québec. Pour plus de détails ou pour acheter vos billets, ben rendez-vous au fondationpleinpotentiel.com ou au blvd.fm, section événements. Venez vivre une soirée haute en saveur et en couleur. Pascal CV vient de faire son apparition en studio et elle semble être de très bonne humeur. Salut Pascal.
C'est rare que je le suis pas. Salut Max.
Salut, mais particulièrement aujourd'hui, là, t'as un gros sourire, t'as passé un beau week-end.
Ouais, je suis un peu fébrile. Là. J'étais à 4 jours de vous quitter, mesdames et messieurs. Fait que il y a une fébrilité assurée dans l'air. Là. Ça, c'est sûr.
Et aujourd'hui, tu viens avec un sujet qui est, j'allais dire lourd. C'est pas vrai.
Max, comment veux-tu mourir? C'est ça ma question aujourd'hui.
Tabarouette. Hey, pas lourd pantoute un matin. Tabarouette. Comment? Ben, d'un coup sec.
Et où?
Et où? OK, où? Je pensais et où, puis il fallait que j'aie une autre réponse.
À quel endroit? De préférence.
Je pense que j'aimerais ça chez nous, dans mon sommeil. Mettons,
ben, c'est souvent ça. Bon, dans ton sommeil, tu le choisis pas, mais souvent, et de plus en plus, avec la population vieillissante, il y a des gens qui lèvent la main en disant « Ouais, moi, je veux décéder chez moi. » Le X, c'est, puis je te donne la triste histoire, mais super scindée de celle de ma grand-mère qui avait un cancer, qui tout le long de sa maladie a dit « Je veux décéder à la maison. » Je veux rester du moins à la maison le plus longtemps possible. Mm-hmm. Puis c'est sûr que nous autres, ça nous a déchiré le cœur parce qu'à la toute fin, on n'était pas capable de la garder. Il fallait des soins de confort. Puis les soins palliatifs, c'était à l'hôpital. À l'hôpital, on a eu un service impeccable. Je ne peux pas dire le contraire. Mais il y aura toujours ça dans notre tête du fait que...
T'es pas chez vous.
T'sais, on n'a pas eu la chance de faire en sorte que ma grand-mère décède dans son confort. Puis à la toute fin, ben il n'y avait pas le choix. Il devait y avoir des soins. C'était d'une souffrance. Et ça, c'est à prendre en considération dans cette population-là qui est vieillissante, les soins à domicile. Il y a deux pas, Max, là-dedans. Il y a le pas humain, donc le respect de la volonté de quelqu'un, du souhait de quelqu'un. Mais il y a aussi le confort que tu vas avoir à la maison. Il y a aussi le fait de pouvoir être entouré à toute heure de la journée des gens que t'aimes, si jamais. Et il y a certainement le coût économique de ça. Le fait que les hôpitaux sont bondés. Fait que t'as l'aspect humain puis t'as l'aspect économique, un petit peu plus pragmatique, mais super important dans notre société. Tu parles à des chirurgiens, là, des médecins qui travaillent à l'hôpital, puis il y en a plein qui vont te dire de façon assez froide, mais calculée, il y en a qui étirent leurs soins, ça coûte très cher, ils s'embourbent nos hôpitaux. C'est un pan. Je m'en vais pas là, je m'en vais vraiment dans le désir de tous et chacun. Au 88-971-1021, vous voulez mourir à quel endroit de préférence? Vous pouvez choisir demain. Bien, je pense que ce qu'on va recevoir là, sur Twitch puis par texto, c'est à la maison.
C'est sûr que l'hôpital, c'est pas beau un hôpital. Là. On s'entend, c'est...
Moins confortable, pas ta nourriture.
Le moins de temps possible là-bas. Là.
Mais là, on commence à réfléchir sur le fait de mourir à domicile. Une option qui devrait être possible grâce aux soins de répit. Parce qu'il y a des gens qui vont réussir à rester à la maison, mais ils ont besoin de proches aidants. Ces gens-là arrêtent de travailler, sont au chevet de leurs proches malades. Ils en prennent soin, sauf que ça vient un job à temps plein, un job émotif et physique sans arrêt. Tu vas faire ton épicerie, il faut que tu te poses la question, « Hey, je suis en train de laisser une personne malade puis ça pourrait mal se passer à la maison. » La réponse, en plusieurs cas, c'est oui. Et il y a une étude qui est sortie de la part de l'Université McGill. En fait, on a une demande ferme, une demande d'aiguillage pour le gouvernement du Québec, qui est en remaniement ministériel en ce moment au niveau de la santé, sur la mise en œuvre d'un plan d'action pour un accès équitable à des soins palliatifs de fin de vie de qualité, que tout le monde ait la possibilité de faire sur un téléphone et dire « J'aimerais avoir des équipes d'infirmiers et infirmières qui viennent à la maison, une aide pour des soins d'hygiène sinon, etc. »
Ça doit prendre du staff, par exemple.
C'est ça. Puis en pleine pénurie de main-d'œuvre, on peut dire « Est-ce que c'est atteignable? » Bien, il y a eu une étude qui a été faite, justement, comme je te disais, par l'Université McGill. Et ce matin, je parlais à quelqu'un de très ferré là-dedans. Et elle s'appelle Kelly Kilpatrick. En fait, c'est une des chercheurs dans tout ça. Et on écoute un peu comment est-ce qu'on réussirait et surtout... Pourquoi on s'est rendu à penser aux soins à domicile?
On avait comme but avec ce projet-là de mieux comprendre comment on pouvait soutenir les gens. Et ce qui est important de voir, c'est d'offrir un répit, mais aussi d'offrir d'autres types de services pour, par exemple, des soins physiques, des soins de confort, l'ajustement de médicaments pour soulager les personnes, faire en sorte que quelqu'un qui souhaite demeurer à domicile est décédé à domicile, ce qui est différent des autres, par exemple, de l'aide médicale à mourir. Là, vraiment, les gens qui souhaitent décéder à domicile peuvent rester à domicile pour être capable de qu'on respecte leur souhait.
T'sais, c'est un souhait, c'est dans une société où normalement tout devrait être un peu accessible, pas nécessairement dans le privé. Il y a des collègues qui se confient en ce moment, qui nous envoient des messages en disant « Hey, moi, c'est arrivé aussi avec un proche, j'ai trouvé ça difficile. » Et ça reste dans la tête, puis surtout, tu veux offrir la meilleure qualité de vie pour ces gens-là. L'affaire, c'est que c'est pas totalement facile, mais il y a des ressources qui peuvent être appliquées puis qui peuvent certainement être déployées dans vos maisons.
D'avoir des équipes, par exemple, de soins infirmiers et d'hygiène qui peuvent aller à domicile, d'avoir des intervenants qui peuvent ajuster des médicaments, qui peuvent offrir plus de confort ou soulager des symptômes qui seraient désagréables pour la personne. C'est le type de service, dans le fond, qui peuvent aider du soutien psychologique, par exemple, pour les personnes proches aidantes. Ce sont des ressources qui vont faire en sorte qu'on peut rester à domicile.
Mais ça doit tellement être du stock. Par exemple, on est de plus en plus vieux au Québec, là, j'apprends rien à personne.
Non. Population vieillissante.
Ça va, c'est tout un défi, là. Je vois comme pas comment c'est possible.
C'est l'avenir de demain, en fait, étrangement, même si tu vois qu'il y a plusieurs préoccupations au niveau du personnel, ça va quand même désengorger les hôpitaux sur du factuel, du quotidien, puis ça permettrait à ces équipes-là d'avoir une stabilité. C'est ce que plaident, en fait, ces gens-là du côté de l'Université McGill. Ils s'appuient sur 6000 dossiers de patients qui sont datés de 2015 à 2024. C'est un organisme de soins palliatifs qui est à domicile à Montréal. Puis 73 entretiens avec des patients, des soignants, des prestataires de services, des décideurs. Puis en moyenne, les patients étaient âgés de 78 ans et presque tous étaient atteints de cancer. Puis un sur quatre environ vivait seul. Alors, c'est pas nécessairement des gens qui pouvaient se mouvoir, qui pouvaient se rendre à l'hôpital aussi. Ils appelaient l'ambulance ou encore il n'y avait pas de soins, puis étaient dans une détresse où pour certains, la mort arrivait. Et on a révélé qu'avec des soins de répit, entre autres, pour les gens qui sont proches aidants, bien, ça permet à ces gens-là, en prenant des pauses, d'être encore plus déterminants dans la vie des gens qui veulent mourir à domicile. Donc, en ayant certaines pauses pour ces gens-là, bien, il y a une possibilité qu'on se rende à la mort, à la maison. Les patients, ils sont 2,7 fois plus susceptibles de mourir à domicile quand ces services-là sont accessibles. Juste le répit, là, pour les prochains aidants. Donc, ça augmente quand même beaucoup la donne. Puis, j'ai parlé avec elle sur les ressources, mais sur la transition qu'on devrait appliquer aussi pour essayer de ne pas congestionner, mais réussir tout ça.
Donc, ce qu'on sait, c'est que la très grande majorité des services de soins palliatifs sont offertes, entre autres, en milieu hospitalier. Et ce qu'on sait, c'est que de faire une offre qui est plus à domicile est beaucoup plus aligné avec ce que les gens souhaitent. Les chiffres actuellement, là, c'est moins de 10% des personnes qui sont âgées de 75 à 80 ans qui décèdent à domicile lorsqu'elles le souhaitent. Mais ce chiffre-là augmente à près de 30% quand on offre des ressources. Puis c'est une transition qui, au niveau des, par exemple, si on regarde des priorités qui ont été envisagées au niveau du ministère de la Santé, c'est très aligné aussi avec ce que les gens espèrent faire.
On a des textos qui entrent.
Écoute, même dans mes messengers personnels de Facebook en ce moment.
Je trouve l'idée très bonne pour avoir des proches et amis infirmiers, préposés bénéficiaires. Les postes à domicile sont des postes très, très, très sollicités. Donc, mm-hmm. Je pense même que ça augmenterait la demande d'emploi. Moi, c'était possible par rapport à où on aimerait décéder. On a Clément qui dit à mon chalet bien paisible. Alors, tout ce qui ressemble à la nature, en fait, c'est quelque chose qui revient aussi.
Écoute, j'ai un message. Bonjour Pascal, ce que vous dites, ça me vient me toucher directement. Je suis à l'âge de me questionner. 75 ans, le sujet vient me chercher. C'est mon souhait profond. Je ne veux pas mourir seule. J'ai mon fils de la famille, mais quand même, je veux le faire à la maison. Puis, tu sais, dans ce que tu dis, là, moi, j'ai lancé des perches en fin de semaine à des gens qui travaillent en santé. Il y en a plusieurs qui resteraient dans le domaine, qui sont en train de le déserter. Parce que pour eux, la quiétude de faire ça, puis le sentiment d'avoir un réel impact en santé dans la vie de leurs patients. Là. Ils sont en train de le perdre des fois.
Ouais.
Dans la va-vite des hôpitaux, dans le fait que la pression est là, avec les heures supplémentaires, avec ci, avec ça.
Alors que c'est pour ça qu'ils font la job.
Et s'ils désertent, on les perd. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas migrer vers ce service-là, à domicile, un peu comme un autre texto qu'on a reçu à, à l'instant?
Intéressant. Merci beaucoup, Pascal. As-tu regardé le football hier?
Oui! Moi, les Eagles, là, je te le dis, là, si jamais Joe Burrow, Jamar Chase quittent les Bengals, je pense que ça va être mon équipe.
Parce que là, hier, Joe Burrow est blessé, mais les Bengals, ça n'a pas bien été. Hein?
Ça va pas
48 à 10, Simonac de Tabarouette.
Écoute, parle-moi ça pas.
Moi, j'avais mis mon petit 2 sur les Bengals hier. On me disait, non, moi, je pense qu'ils peuvent quand même surprendre les Vikings. 48 à 10.
Merci.
Ça. Il y a eu des matchs de fou raide hier. Les Colts qui ont eu dessus 41 à 20 sur les Titans. Les Commanders qui ont ramassé les Raiders, même en l'absence du carrière vedette Jaden Daniels. Tout un match justement entre les Eagles et les Rams. Les Rams qui sont passés très très près, à quelques centimètres de sauver avec la victoire. Finalement, c'est pas arrivé. Les Packers qui l'ont échappé. Et ça se poursuit ce soir pour la semaine de la NFL avec tout un duel entre les Lions de Détroit et les Ravens de Baltimore.
Moi, j'ai booké, là, je m'en vais à Chicago en novembre voir les Bears. Pas parce que c'est mon équipe, parce que je voulais aller à Chicago.
Contre qui?
Je sais pas, ils tombent contre qui? Okay. Faudrait que
intéressant.
Je vois.
Chicago, quelle belle ville. Je suis allé voir les Bears l'année passée. Là.
T'as aimé ça, en
j'ai
plus.
Adoré ça. Là, faut se quitter, mais on en reparle, Pascal.
Okay.
Merci beaucoup d'avoir été là. Puis ratez pas en passant aussi, premier match préparatoire du Canadien de Montréal face aux Pingouins de Pittsburgh au Centre Bell, 19h ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Jeff Fortin s'en vient. Pascal va revenir aussi dans quelques secondes. Et Anthony Niacarini.